Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois aujourd'hui Karima Lazali. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste et vous venez de publier Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie aux éditions La Découverte. Alors dans une famille comme la vôtre, est-ce que tout le monde porte le même nom?
Oui.
Oui?
Maintenant, oui.
Oui. Vous nous expliquez un petit peu?
Alors, vous parlez de la question des noms, en fait.
Non, c'est intéressant parce que vous expliquez que finalement, à un moment donné, on a voulu changer les noms. Alors, on a rajouté des accents circonflexes, des A, tout ça. Et finalement, vous vous êtes retrouvé dans votre famille à plus tous porter le même nom.
Alors, oui, il se trouve qu'au moment du passage au passeport biométrique en Algérie, il y a eu de grosses erreurs, problèmes de retranscription des noms. Qui a fait que la population ne se retrouvait pas avec son nom d'origine. Or, cette question du nom d'origine provient de ce qui a été mis en place pendant la colonisation du côté de l'État civil qui a fait éclater les noms et le collectif, donc en renommant les personnes pour casser le collectif et la manière dont les noms étaient établis traditionnellement.
Il y a des familles qui se sont retrouvées avec des noms qui n'étaient pas tout à fait les leurs, en fait, finalement.
Bah, oui, 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 bien sûr.
Mmh. Bien, maintenant, tout le monde reporte le même nom dans votre famille, Lazali. Mmh. Alors, vous citez Frantz Fanon pour commencer votre livre. Vous dites « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Quelle est la mission de votre génération?
Alors, la mission de ma génération, c'est quand même d'essayer d'entrer dans cette histoire algérienne par une autre porte, en inventant une autre porte d'entrée que celle qui a été jusqu'à maintenant prise, en quelque sorte, pour penser l'histoire et pour penser l'actuel de la société, et finalement des sociétés, parce que quelle que soit la société où on est, qu'on soit en France ou en Algérie, il y a nécessité de travailler cette histoire autrement que ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Mais l'histoire, c'est une histoire d'historien, c'est simple.
Alors, ça ne suffit pas. Les historiens font un travail énorme sur l'histoire de l'Algérie ou sur l'histoire franco-algérienne, mais les faits d'histoire ne parlent pas tout seuls.
Mmh. Donc, vous, qu'est-ce que vous apportez dans votre démarche?
Alors,
de plus que, par exemple, en quoi, si vous voulez, la psychanalyste que vous êtes va mieux comprendre l'histoire de l'Algérie, en tout cas l'histoire de l'Algérie depuis 1830, que les historiens? Qu'est-ce que vous apportez de plus?
Non, je ne la comprends pas mieux. C'est un travail différent. C'est-à-dire que moi, pour travailler, j'ai besoin des travaux des historiens. Sans les travaux des historiens, je n'aurais pas pu écrire ce livre-là sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale. Si ce n'est que les faits d'histoire ne parlent pas seuls. Et donc, pour mon travail, c'est d'essayer de retrouver comment ces faits historiques, quels sont leurs impacts sur les subjectivités et comment ces impacts déterminent la position, les positions des individus et comment ces impacts-là orientent le social.
Et voilà. Comment ils se transmettent. Alors, vous travaillez sur quels matériaux? Finalement, il y a l'humain, puisqu'il y a les gens que vous voyez en thérapie, mais il y a aussi la littérature. Pourquoi est-ce que vous vous êtes servi de la littérature? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre travail?
Oui, alors d'abord, mon lieu d'exercice premier, c'est les êtres humains, donc des femmes et des hommes qui viennent consulter parce qu'ils sont aux prises avec une souffrance qui rend difficile leur existence. Dans ce travail-là, il me paraissait très important d'abord de ne pas citer les paroles des patients, mais de trouver le matériau qui était au plus proche des subjectivités. Et pour moi, la littérature, c'est vraiment ce qui est au plus proche des subjectivités dans leur diversité. Donc c'est comme ça que j'ai eu recours à la littérature. J'ai fait travailler la littérature avec l'histoire, au fond.
Ça, c'est original. Les gens que vous recevez, alors vous avez exercé en Algérie et vous avez exercé en France, vous avez fait des psychothérapies donc en arabe, en français. En général, les gens qui viennent vous voir, ils viennent pas vous dire en disant j'ai mal à mon pays, j'ai mal à mon histoire, finalement. Quels sont les symptômes qui les guident jusqu'à vous?
Alors, j'exerce toujours, c'est toujours actuel à Paris et à Alger. Bien entendu, on ne vient pas me voir en me disant j'ai mal à mon pays. Il se trouve qu'au fur et à mesure de ma pratique dans ce va-et-vient entre Paris et Alger, je me suis rendu compte que les patients qui venaient me voir à Alger portaient en eux une part malade, et c'est la part du collectif qui était malade. Et que mes instruments habituels de psychanalyste était tout à fait inadéquat pour traiter de ce collectif. Et d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment on traite du collectif quand on est psychanalyste. Mais en même temps, c'était une impasse, puisque soulager quelqu'un de ses souffrances, de ses douleurs, ne suffisait pas tant que le collectif continuait à être malade. J'ai essayé de travailler un peu sur quelle était cette maladie du collectif, comment, quels étaient ses symptômes, quelles étaient ses sources. Et finalement, j'en appelle, ou en tout cas j'espère, que une mobilisation de plusieurs disciplines permettra de trouver des voies de sortie, des remèdes possibles.
Si on prend la troisième génération, en tout cas la troisième génération post-coloniale, comment est-ce qu'elle a pu hériter de quelque chose, par exemple, qui s'est passé avant qu'elle naisse ?
Nous ne cessons d'hériter de tout ce qui se passe avant de naître. Et le discours des parents, leur position, le discours des grands-parents, transmettent toute une série d'éléments qui appartiennent à l'histoire, quand bien même on est bien incapable de les nommer et de les reconnaître tels quels. Mais ils sont hébergés chez les générations suivantes. Alors, ils peuvent être hébergés, il y a plusieurs façons. Il se trouve que dans cette histoire franco-algérienne, ce qui est hébergé, ce sont les blancs de cette histoire. Qui rendent,
les blancs, donc ce sont tous les non-dits.
Les blancs, c'est ce qui ne s'inscrit pas. C'est plus grave que le non-dit, c'est ce qui s'inscrit sans pouvoir être nommé en tant que tel. C'est pas juste un non-dit.
Alors, prenons un exemple. De blanc.
L'exemple.
Jusqu'à 13h. Hein. Si ça vous revient avant 13h, je le prendrai à ce moment-là. Donc, ces blancs qui sont pas exprimés, finalement.
Et qui s'expriment dans le blanc. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier en tant que tel et qui vous travaille à l'intérieur. Comment cette histoire coloniale s'est inscrite, ça a été ça ma préoccupation. Elle s'est inscrite dans les subjectivités. Quand je dis comment elle s'est inscrite, il ne s'agit pas d'être dans une espèce de dénonciation ou d'accusation. Comment, un par un, elle s'est inscrite et quels sont ses effets.
Là, on ne parle pas d'histoire collective, mais on parle individuellement.
Oui.
Voilà, sur les gens. Oui. Souvent, cette histoire, elle n'a pas été verbalisée, d'ailleurs. Elle n'a pas forcément été verbalisée, elle n'a pas forcément été racontée.
Ben, c'est en cela qu'elle se transmet par du blanc. Vous venez de répondre exactement à la question que vous me posiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, elle se transmet, elle est agissante dans les subjectivités, mais par des blancs. Le sujet n'arrive pas à dire où ses impacts vivent en lui. Et pourtant, ça ne cesse d'être là.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme, finalement ?
Non, c'est pas comme ça en termes de symptômes. Disons que dans cette histoire, ce qui est très particulier, c'est l'effacement de cette histoire même. Donc un rapport à l'histoire qui est quand même extrêmement souffrant. Ça donne un rapport à l'histoire qui est très souffrant.
Et d'ailleurs, alors, des deux côtés de la Méditerranée, on n'a pas du tout la même version de cette histoire.
Exactement, oui. Alors, on n'a pas les mêmes versions de cette histoire, et pourtant il y a un trait commun qui est l'effacement. L'effacement de ce qu'a été cette histoire pour les uns et pour les autres.
Il existe une confusion, écrivez-vous, entre le colonialisme et la colonialité. Laquelle ?
Le colonialisme est le fait historique. La colonialité, c'est le système qui a fait tenir des individus pendant 132 ans. Et quand je parle d'individus, ça s'adresse aussi bien aux Européens que ceux qui ont été nommés indigènes qu'aux Juifs d'Algérie. C'est le système qui est construit à partir de mécanismes très précis la haine de la diversité, l'effacement, la pratique de la disparition. On a bien vu que là dernièrement, on a beaucoup parlé de l'affaire Maurice Sodin, mais la pratique de la disparition est quelque chose qui était orienté vers les indigènes et qui, au fur et à mesure, à la fin de la guerre de libération, s'est étendue et a touché toute cette population, donc y compris les Européens. La pratique de la disparition a été une arme de la colonisation, ce qui d'ailleurs se retrouve dans le fait que l'Algérie a été une colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de faire disparaître le plus de personnes possible, ou en tout cas de faire disparaître également tout ce qui était leur référent linguistique, culturel, historique, etc.
La disparition, il y en a eu, si on parle de disparition, alors il y a eu des disparitions physiques après la guerre, après la libération.
Ah oui, mais le système a perduré,
voire... C'est ça qu'il faut expliquer, c'est que ce système-là, il a perduré après.
Ce système a perduré, voire continue de perdurer. Et la question, c'est finalement, comment sortir de ce système et reprenant comme ça les mots de Frantz Fanon, il parle de pacte colonial, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait entre la France et l'Algérie une espèce de pacte colonial qui serait signé à blanc, puisqu'on a beaucoup de mal maintenant à retrouver les signataires du pacte, le temps est passé, et donc on se débat dans ce pacte colonial.
La disparition, c'est une arme.
Oui, tout à fait. La disparition est une arme que l'Algérie a continué à utiliser bien après l'indépendance par la disparition des corps.
Est-ce qu'il y a d'autres faits donc, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans ce système de la colonialité?
La haine de la diversité, la haine du pacte républicain, les censures ont une place extrêmement importante pendant la colonisation. On voit bien que pendant la guerre de libération, la métropole était entièrement coupée de ce qui se passait sur le territoire algérien, que les écrits, les travaux ont été censurés. On peut se poser la question de comment cette censure continue à agir jusqu'à maintenant, d'où notre difficulté à parler librement et tranquillement à partir d'une diversité de cette histoire coloniale. Il y a quelque chose aussi qui persiste du côté du travail des censures.
Le mot colonialité était peu utilisé sur l'Algérie jusqu'à présent. Pourquoi ?
Alors pourquoi je crois que c'est fidèle à la manière dont cette histoire coloniale a été traitée jusqu'à maintenant. Hein, c'est-à-dire que... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on parle de l'histoire coloniale, on pense que ça ne s'adresse et ça ne concerne que les Algériens, que ce soit des Algériens vivant en Algérie ou des Algériens vivant en France. Alors, première difficulté, l'histoire coloniale s'adresse aux deux populations, françaises et algériennes. Si on ne commence pas par là, on fabrique pour la population française et donc aussi pour la population immigrée, pour la population algérienne, ils n'ont pas besoin de cette reconnaissance en quelque sorte, ils sont sur place, ils savent, voilà. Mais on fabrique pour la population française et pour la population immigrée et donc leurs enfants, on fabrique une confiscation de l'histoire, hein, c'est-à-dire que confiscation de l'histoire qui existe également en Algérie autrement. Hein, c'est là qu'on voit bien qu'il y a un pacte et en même temps il y a des points de différence. Et donc il est très important d'essayer de renouer avec le fait très simple que l'histoire coloniale concerne les deux populations. Et ne pas vouloir en entendre parler, c'est priver une partie de la population française de son histoire, ce qui est quand même assez dramatique, et ça va se transmettre, et ça n'a cessé d'ailleurs de se transmettre. Bon, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que jusqu'à maintenant, l'histoire coloniale a été réservé essentiellement aux historiens et qu'on ne peut pas dire que l'histoire coloniale pour l'Algérie ait mobilisé des travaux à partir de disciplines très variées. Or, on ne peut pas travailler sur cette histoire si on n'y rentre pas à partir de plusieurs champs disciplinaires, puisque les impacts sont très divers. Voilà. Donc l'histoire coloniale ne peut pas être réservée qu'aux historiens, quand bien même je crois que vraiment c'est les seuls à avoir fait un immense travail avec les écrivains algériens.
Bien. Et je vous le disais, vous vous êtes intéressé, je vous le disais hors antenne, hein, vous êtes intéressé à ce qu'on appelle la décennie noire, et c'est vrai que pour ce qui concerne cette décennie, il y a encore aujourd'hui très peu d'explications et très peu d'écrits.
Oui, alors vous appelez ça décennie noire. Moi, je crois que appeler ça décennie noire, rouge, terrorisme, etc., c'est une façon de ne pas trouver les mots qui pourraient nommer ce qui s'est
passé. Qu'est-ce qui est exact, alors ?
Ah ben, je crois que ça a été une guerre. Ça a été une guerre.
Une guerre intérieure.
Une guerre intérieure. En tout cas, c'est le mot que j'ai trouvé. En effet, c'est une guerre intérieure. Les termes de guerre civile sont c'est assez inadéquat. C'est une guerre intérieure qui s'est construite à partir de comment le crime a été hébergé à l'intérieur et qu'est-ce qui s'est passé durant l'histoire coloniale avec ces années de crimes et de disparitions.
Karima Lazali est notre invitée. Son livre s'appelle Le trauma colonial. C'est une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie aux éditions La Découverte. Et si vous voulez réagir et peut-être poser une question, vous pouvez le faire au 01 53 48 3000.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club a lu pour vous Le trauma colonial, le livre de Karima Lazali, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie aux éditions La Découverte. Dans ce livre, vous avez donc allié la psychanalyse, l'histoire et la littérature. Et c'est comme une bibliothèque, on va dire, idéale, hein, les auteurs que vous avez convoqués. Alors, il y a ceux qu'on connaît, évidemment. Il y a L'étranger de Camus, bon voilà, le Nejma de Kateb Yassine, dont tout le monde dit que c'est un livre magnifique, mais qui est un livre très compliqué finalement, ce livre qu'il a écrit en prison, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris d'ailleurs Nejma.
Nejma est un livre extrêmement difficile, oui. On ne peut rentrer dans Nejma que si on le lit plusieurs fois, et surtout si on le lit avec une trame historique qui est très importante. Sinon, on ne peut pas comprendre de quoi Kateb Yassine parle dans Nejma.
Beaucoup d'auteurs, je le disais, donc Frantz Fanon, alors il faut le relire, hein, Fanon, finalement, ça c'est important. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, il avait vraiment prévu et anticipé ce qui se passe aujourd'hui ?
Ah oui, très largement. Frantz Fanon a été extrêmement visionnaire sur la manière dont les révolutions et la révolution algérienne pouvaient réavaler ses enfants et se retourner en l'inverse de la révolution, c'est-à-dire dans un système dictatorial.
Et vous avez lu alors des livres qui sont beaucoup plus rares, par exemple le livre de La Grotte éclatée, par exemple de Yamina Meshachra. Donc là aussi, pour le coup, c'est une histoire coloniale, ce livre.
Alors, bon, pour reprendre un petit peu sur les écrivains, oui, il y a Kateb Yassine, Nabil Fares, Jean le Mourou Bamrouche pour les Mohamed Dib. Ça, c'est pour la partie histoire coloniale. Mais ensuite, j'ai travaillé sur les écrivains beaucoup plus contemporains. Alors, après arrive Yamina Meshachra, qui est une femme psychiatre, enfin, qui est décédée maintenant, psychiatre, écrivaine, qui a écrit des choses remarquables autour de les effets de la torture, autour de la disparition et la manière dont les disparus hantent l'esprit des vivants. Et quand on lit Yamina Meshachra, on se rend compte que cette hantise par l'esprit des disparus, cette hantise comme ça du démembrement du corps et des corps, c'est exactement ce qui a continué à se vivre en Algérie durant la guerre intérieure. Donc les écrivains nous apportent un matériel très très précieux parce qu'ils permettent de subjectiver ces faits d'histoire. Hein, on entend les personnages parler, ce que ne peuvent pas faire les faits historiques tout seuls. Et ensuite, nous avons des écrivains beaucoup plus contemporains, Abzri Mellal, Kamel Daoud, Mansour Kedidir, Tahar Jaoud et bien d'autres. Mais on va dire qu'en Algérie...
Chaouki Amari...
Oui.
Vous connaissez la blague du camion qui transportait des troncs? C'est quoi cette blague de non?
Alors, c'est un...
Non,
on transporte un trou, on embarque le trou dans le camion. Alors, c'est une blague ancienne, hein, qui n'existe pas qu'en Algérie, qu'on retrouve aussi ailleurs. On embarque le trou dans le camion, on entend un bruit, le trou tombe, on va chercher le trou, on cherche le trou. Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche le trou? Eh bien, on tombe dedans. Parce qu'on veut ramasser le trou, c'est-à-dire qu'on veut le récupérer.
Bon, là, vous convoquez les écrivains, donc la littérature, mais finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux sur les traces de la colonisation et tout ce que ça a laissé comme trauma? Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le sujet?
Alors, il y a les historiens, une fois de plus, il y a les historiens, il y a les écrivains algériens, mais à mon sens, ça s'arrête là. C'est très insuffisant, d'autant plus que je ne suis pas sûre. Si vous voulez, ça ne va pas de soi qu'une histoire fasse trace. Il y a des impacts. Pour que ça fasse trace, il faut faire ce travail de subjectivation, d'archivage des traces. Il faut se rendre compte qu'il y a eu effacement. Essayer de retourner sur le lieu de l'effacement. Essayer d'interpréter ce qui a été effacé en retrouvant ce qui était là avant l'effacement. Donc c'est un immense travail. Et c'est ce travail-là qui permet de fabriquer des traces. Sans cela, on est dans des impacts.
Et sinon, on fabrique des oublis finalement.
Alors, on fabrique des oublis, on fabrique de l'impossible à oublier. C'est ce que j'essaie de montrer. C'est-à-dire qu'on pense que l'histoire coloniale est quelque chose qu'on cherche à oublier. Je crois que c'est quelque chose qui est impossible à oublier et qui réapparaît en blanc. Et donc, on n'est pas sorti de cette histoire-là. Parce que finalement, quand on oublie quelque chose, on sort un peu de cette affaire. C'est-à-dire qu'on réinterprète. Vous interprétez ce que vous avez oublié. Mais là, il y a de l'impossible à oublier, en tout cas pour l'Algérie.
Avant de l'oublier, vous passez par l'étape de la réinterprétation, c'est ça?
Oui, oui.
Et après, vous l'oubliez.
Alors, vous oubliez, mais ce qui est intéressant avec l'oubli, c'est que ça revient d'une façon transformée. Le problème de l'histoire franco-algérienne sur la question coloniale, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de transformation. Ça s'est entendu dans les débats autour du voile, ça s'est entendu dans les débats autour de l'incompatibilité de l'islam et de la République en France. Ce sont exactement les mêmes termes qui étaient employés à l'époque coloniale. La question de l'intégration date de l'époque coloniale. Donc, si vous voulez, on a tout un travail à faire autour de l'emploi de ces termes actuellement qui, eux, ont une histoire. Et que quand on lit les historiens, eh bien, on se rend compte que ce sont les mêmes termes qui sont employés. Mais qu'on ne sait plus, les générations sont passées et ils ne savent même plus que ces termes employés. Actuellement, on pense que le débat est nouveau. La question du voile, du dévoilement des femmes, c'était déjà traité par Frantz Fanon dans l'enceinte de la Révolution algérienne. Je crois que c'est 56 ou 57 de mémoire. Donc, vous entendez bien que ce sont dans les... Rien de nouveau. Ce qui signifie que nous n'avons pas fabriqué assez de traces pour penser cette histoire d'une autre façon. C'est-à-dire trouver une autre porte d'entrée dans cette histoire. Donc la colonisation se poursuit autrement.
Alors, 0153483000, Yasmine est avec nous.
Yasmine, oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous, Yasmine?
Ça va, merci. J'écoute avec grande attention votre émission.
Bien. Est-ce que vous avez une question à poser à Karima Lazali qui est là?
Oui, j'avais une question. Donc notamment sur cette spécificité de l'Algérie, vous venez de parler du dévoilement des femmes, donc les femmes qu'on a dévoilées de force pendant la colonisation. Je voulais savoir sur cette histoire de colonialité, d'expression des corps, de traitement différencié qu'on voit aujourd'hui, comment est-ce que vous le situez par rapport à, par exemple, la Réunion, je pense aux travaux de Françoise Vergès, ou d'autres pays du Maghreb. Est-ce que, même malgré le fait qu'il y a une spécificité de la colonisation algérienne, est-ce que la colonialité s'exprime aujourd'hui d'autres façons pour les Marocains, Marocaines, ou la Tunisie, ou les îles coloniales?
C'était la petite question du dimanche, Karima.
Alors, je crois que c'est très important de retrouver les spécificités. Hein, parler de colonialité dans ce livre-là, j'en parle par rapport à l'Algérie. Donc, c'est très précis.
Et ce que je vous disais, que c'est ce que moi j'ai trouvé nouveau, c'est que c'est la première fois que je le voyais associé avec l'Algérie. Hein, ce mot colonialité, je l'avais déjà. Vous voyez, oui. donc c'est important que vous posiez que vous l'introduisiez dans le débat.
Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas parler de colonialité en général parce que on peut parler de colonisation. Il y a eu une colonisation française dans des territoires différents. Il faudrait faire un immense travail pour voir quels sont les points communs de cette colonisation et quels sont les points de distinction. L'Algérie a été la seule colonie de peuplement, c'est-à-dire que la question du repeuplement de ce territoire par du blanc, la question de l'effacement de toute l'histoire de ce territoire, je crois qu'il là, il y a une spécificité algérienne. Il faut faire très attention à ne pas faire trop d'amalgames, d'autant plus qu'une des spécificités de la colonialité, c'est de fabriquer des confusions et du brouillage, et laisser le temps travailler. Voilà, je ne sais pas si je réponds.
Alors,
oui, merci.
Yasmine, est-ce que ça répond à votre question ?
Oui, oui, effectivement. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de répondre.
Bon, en tout cas, vous avez une voix jeune. Quel âge avez-vous, Yasmine ?
J'ai 30 ans.
D'accord. Donc, vous voyez, c'est les jeunes générations qui s'intéressent à ces questions, à cette histoire, en fait.
Mais c'est nous qui vivons les conséquences aussi aujourd'hui de ne pas pouvoir parler de certains sujets, comme le disait Madame Lazali, de ne pas connaître sa propre histoire. Voilà, on a beaucoup de questions à poser.
Exactement.
Merci Yasmine.
Merci, au revoir.
Au revoir. L'impossible révolution de l'intime en Algérie, d'où vient-elle ?
Alors, l'histoire de cette impossible révolution de la team, alors déjà, expliquer un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire que quand on fait une analyse, le projet, c'est d'être dans une révolution intime. C'est-à-dire qu'il y a un tournant radical en soi, un changement, et arriver à vivre en adéquation avec qui on est, avec comment on veut vivre, avec ce que l'on pense, en fait. Être en adéquation avec ce que l'on pense et ce que l'on est et ce qu'on veut. Or, il se trouve qu'en Algérie, cette affaire-là est très difficile, puisqu'il y a toute une série de censures qui ne cessent d'éloigner les individus d'eux-mêmes en leur demandant de répondre à une série de prescriptions auxquelles les individus finissent par se soumettre, pensant que c'est comme ça qu'ils vont avoir la paix. En quelque sorte, hein. Donc, vivons heureux, vivons cachés. Le problème de vivons heureux, vivons cachés, c'est que le sujet finit par se brider lui-même, tout seul. Alors, il sait au début que c'est le système qui le bride, et puis au fur et à mesure, il l'héberge tellement bien que ce système finit par se confondre avec lui-même.
Donc, il n'a plus besoin du système, on n'a plus besoin de lui dire, il se censure tout seul, finalement.
Ah ben, il continue à entretenir l'affaire en interne, mais en oubliant que cette fois-ci, c'est lui qui est l'auteur de ses propres censures. Et donc, ce dont je me suis rendu compte en travaillant à Alger, c'est jusqu'à quel point il était très difficile d'arriver à accompagner quelqu'un vers une liberté de pensée. Parce que cette liberté de pensée, elle est très dangereuse. Et puis, quand vous êtes dans cette liberté de pensée, quand au bout d'un certain temps de thérapie ou d'analyse, vous êtes libéré, que vous voulez vivre en adéquation avec vous-même, eh bien vous vous sentez bien seul à l'extérieur puisque rien ne vous l'autorise. Donc ça pose une question très importante, c'est-à-dire comment se libérer dans un collectif qui refuse toute forme de libération. Et donc la révolution historique qui a été confisquée à l'indépendance ne cesse d'être à nouveau confisquée au sein des subjectivités après.
Par exemple, si on prend le jour de la date de l'indépendance, le 5 juillet, qu'est-ce que ça illustre, ça ?
Alors, la date de la conquête a été le 5 juillet 1830. La date officielle, enfin, la date d'indépendance a été le 3 juillet. Et l'État a choisi de garder la date du 5 juillet. Et là, on peut se poser la question, pourquoi ? Est-ce que c'est pour effacer la conquête française ou est-ce que c'est justement pour la rendre éternelle ? Puisqu'on ne sait pas ce qu'on célèbre le 5 juillet.
Revient à l'effacement.
On en revient à l'effacement, mais en même temps, on en revient à une falsification de l'histoire aussi. Puisque si on connaît la date de la conquête, qui est le 5 juillet 62, date de l'indépendance, alors qu'est-ce qu'on va célébrer ? On va célébrer la conquête et on va se dire que comme ça, elle est inoubliable. Or, dans les discours, on ne parle pas de cela, du fait que c'est aussi la date de la conquête. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'effacer définitivement la conquête en disant « il n'y a que l'indépendance, oublions tout le reste ». Vous voyez ?
Et l'effacement fonctionne comme ça.
Voilà.
Bien, Karima Lazali est notre invitée aujourd'hui. Alors, votre livre, Karima, s'appelle « Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie ». Si vous voulez intervenir et poser vos questions à Karima, vous pouvez le faire au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, mon invitée aujourd'hui s'appelle Karima Lazali. Elle est psychologue et psychanalyste. Hein. Vous exercez des deux côtés de la Méditerranée, hein, à Alger et à Paris. Et vous publiez Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. En quoi, finalement, ce trauma colonial s'est-il transformé en trauma social en Algérie ?
Alors, le fait de ne pas avoir pu travailler à l'indépendance véritablement sur cette histoire coloniale, sur ses effets, fait que ça s'est enkysté au sein des subjectivités, ça s'est enkysté au niveau de la structure du pouvoir politique, et en effet, ça s'est transformé en trauma social. Alors, je vais un peu essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Quand on est en Algérie, on a l'impression que la colonisation est extrêmement présente. On a l'impression qu'on ne parle que de cela. Hein, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas dans les débats, dans les discussions,
On convoque la colonisation.
Voilà, on convoque la colonisation comme n'ayant fait que des destructions très graves. Mais alors, c'est un discours qui sert une déresponsabilité, une déresponsabilisation. Et quand on convoque la colonisation, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ce qui a fait que je suis rentrée dans ce travail. C'est parce que quand on parlait des destructions de la colonisation, ça s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'il y a comme un consensus. S'il y a eu destruction, on ne sait pas précisément comment, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas comment ça se transmet, on ne sait pas comment nous, on reproduit ce qui s'est passé. Et il fallait donc arriver à sortir de toutes ces confusions qu'on avait dans la tête quand on parlait de colonisation. Parce que le seul moyen de penser un héritage, c'est de le penser comme étant une construction. C'est-à-dire que nous sommes responsables de notre héritage. Un héritage, il se construit, il s'interprète, c'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, et que si les destructions se poursuivent autant d'années après, c'est bien qu'on y est pour quelque chose. Donc il fallait un petit peu savoir quels étaient véritablement les effets de la colonisation. Mais les savoir et les travailler à partir d'un sentiment de responsabilité.
Mais quand on convoque finalement la colonisation, on sait très bien que ça va fédérer les gens, ça va les souder.
Oui. Ce qui soude, c'est être contre. Alors, ce qui est une grande particularité en Algérie, être contre. Mais du coup, ça empêche de trouver une diversité des positions. C'est-à-dire que on fait unité contre. C'est également comme ça que les mouvements nationalistes sont nés, ce qui a amené au déclenchement de la guerre. Le problème, c'est de ne pas sortir de ce qui fédère contre. Là, c'est une difficulté à laquelle on se confronte régulièrement, qui fait que dans le débat public, le conflit, la contradiction reste très très compliqué. On est très vite pour ou très vite contre, mais la nuance est difficile à trouver. Voilà.
Rachid, peut-être nous apporte la nuance. Bienvenue Rachid et bon dimanche.
Bonjour Philippe, bonjour madame.
Bonjour.
Je voulais intervenir simplement pour vous dire, est-ce que vous connaissez la fameuse phrase qu'a dite Mouloud Feraoun ?
Laquelle ?
Il en a dit, Mouloud Feraoun.
Oui, laquelle phrase ?
Alors il a dit, pauvre montagnard, pauvre étudiant, pauvre peuple, l'ennemi de demain sera pire que l'ennemi d'aujourd'hui. Ça veut dire tout, comprenez. Donc, à l'indépendance, la liberté, elle a été confisquée par des gens, malheureusement, maintenant, tout le monde le sait, qui n'ont rien à voir avec la révolution. Et quand vous parlez de France Fanon, il fallait parler de c'était son coéquipier, comme on dit, c'était lui, c'est lui qui faisait...
Alors Rachid, de qui parlez-vous ? Parce que vous avez été coupé au moment où vous avez commencé votre phrase. Vous parlez de qui ?
Je parle de Dave qu'elle vient de dire. Je parlais de Mouloud Feraoun, qu'est-ce qu'il a dit ?
Oui.
Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, non ?
Oui, ça c'est bon. Et ensuite, vous avez parlé de...
Du compagnon de Fanon.
Voilà.
Après, j'ai parlé de l'indépendance qui a été confisquée. En 62, par des gens qui n'avaient rien à voir avec la révolution. Donc, ils ont pris le pouvoir de force. Donc, automatiquement, ils ont imposé ce qu'ils voulaient. Donc, Voilà, donc je voulais simplement intervenir pour dire ça.
Ben, vous avez bien fait, de le faire et de citer Feraoun, que vous n'avez pas repris dans votre livre, Karima.
Je le cite à un moment autour de la guerre. Je cite Feraoun, mais pas. Voilà.
Merci Rachid.
Parce que le pauvre Feraoun, il n'a pas été réhabilité à cause de cette phrase, jusqu'à maintenant en Algérie.
Oui, alors il y a maintenant d'autres écrivains, je pense à Mansour Kedidir, qui fait un travail fabuleux en montrant comment l'ennemi de l'extérieur, une fois qu'il n'est pas là, ça fabrique l'ennemi de l'intérieur si aucun travail de mémoire n'est fait. Alors, pour reprendre quand même par rapport à votre réflexion, vous savez, il y a un très beau passage chez Frantz Fanon qui explique comment les populations contribuent à choisir les personnes, le système qui les gouverne, quand bien même ils dénoncent ce système-là. Et que je crois que la question essentielle, c'est comment on participe nous-mêmes, chacun à notre niveau, du système politique qui nous gouverne. C'est une question très importante, parce que sinon on continue à faire en sorte que les gouvernés et les gouvernants sont séparés. Or non, pas du tout. Dans la tête, on a tous cette petite structure politique qu'on entretient, à laquelle on participe, et c'est un point très très important, qu'il s'agisse de la société algérienne ou de la société française. Nous participons tous de ce système politique qu'on peut dénoncer à l'occasion, mais le tout, c'est de savoir comment on y participe. Je crois que la question essentielle, elle est là.
Vous savez que François Hollande, il a collaboré beaucoup avec Abane Ramdane pendant deux ans ou deux ans et demi, donc il a été même rédacteur en chef du journal.
Oui, oui.
Voilà. Il a participé à la guerre au début. Hein.
Non, ils ont collaboré, ils ont travaillé ensemble.
Oui, enfin, Frantz Fanon a été aussi un grand théoricien de la guerre, mais il ne faut pas oublier que Frantz Fanon est d'abord et avant tout un psychiatre, et que quand il écrit, sa préoccupation tourne autour des effets psychiques et sociaux de la colonisation et de la guerre. Et il s'occupe aussi bien des personnes qui ont été torturés que du tortionnaire. Il y a un très beau passage de Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, on parle très peu de ce moment-là, où Frantz Fanon parle de ce qu'il en est pour le tortionnaire des désastres.
Vous savez, en Algérie, madame, à l'indépendance, ils ne nous ont pas appris l'éducation de la lecture. Donc moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, on n'avait pas de bibliothèque, on n'avait rien du tout. Donc ils ont tout brûlé, tout enlevé. Et les livres qu'on avait, c'était les livres que nos grands frères, nos parents ont laissés pendant que la France était déjà en Algérie. Mais sinon, c'est après, dans les années 80, qu'il y a eu quand même des bibliothèques, il y a eu des livres qui ont été édités, réédités. Et que malheureusement, maintenant, les Algériens ne lisent plus.
En France, on évite soigneusement de parler de cette histoire coloniale. On en parle comme ça quelquefois à l'occasion de certains événements. Mais en Algérie, on parle en permanence de cette histoire coloniale à partir d'une glorification des martyrs. On n'arrive pas à en parler autrement que sur le modèle d'une glorification des martyrs, des chéhides, etc. Ce qui rend le travail de mémoire très compliqué. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un trait commun entre les deux sociétés. Hein ?
C'est comme la dernière polémique sur le film de Ben Mehdi. On ne veut pas le faire passer parce qu'il s'est pris la tête avec Ben Bella au Caire et tout. Donc ils ne veulent pas faire passer ce passage-là. C'est compliqué. À chaque fois que vous demandez quelque chose, on vous ressort toujours la France, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais la France, maintenant, ça fait 60 ans qu'elle n'est plus en Algérie, malheureusement. Mais bon.
Alors, ce que je cherche à expliquer dans ce livre, c'est jusqu'à quel point la guerre de libération a fait écran à une autre guerre intérieure qui n'est pas récente, qui ne date pas des années 90, mais qui est là dès l'émergence des mouvements nationaux. On retrouve ça avec l'élimination de Messali Hadj, on retrouve ça avec l'assassinat de Ramdan Abel, on retrouve ça beaucoup plus tard, il y a eu l'assassinat de Trida. Enfin, je ne vais pas citer tous les assassinats politiques.
Ce qui veut dire que ça repose sur un fratricide. fratricide.
Voilà, tout à fait.
Ce que vous expliquez dans votre livre.
Exactement, qui montre que le fratricide est au cœur de la structure du pouvoir, que ce fratricide a une histoire très ancienne, puisqu'il a aussi servi d'arme coloniale dès l'époque de la conquête, où on s'arrangeait pour que les tribus s'entretuent, parce que l'intérêt du fratricide à l'époque coloniale, c'est que c'est une arme sans trace, puisque sans trace de qui a tué, puisqu'on pense qu'ils se sont entretués. Et ça, on retrouve ça dans les lettres des militaires. Le problème, c'est que cette question du fratricide, elle est encore actuelle et elle structure le pouvoir politique par l'élimination et surtout la disparition. Voilà.
Oui, mais c'est très bien ça. Vous avez le dernier livre de Kamel Daoud aussi qui vient de sortir il y a une semaine de ça.
Bien. Vous êtes un grand lecteur, hein, Rachid.
Un peu de tout, ouais.
Ouais. Kamel Daoud qui sera prochainement avec nous.
Comment on dit, il faut pas mourir, imbécile, je sais pas comment on dit ça.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous, Rachid. Bon dimanche.
Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Bonne journée.
À bientôt. On parlait de cette guerre intérieure donc qui a suivi Karima. Et qu'est-ce qu'elle a de commun avec la guerre coloniale finalement?
Alors, qu'est-ce qu'elle a de commun? Beaucoup de choses, puisque le travail d'historisation, de mémoire, de subjectivation qui n'a pas été fait à l'indépendance, ce qui aurait signifié, faire ce travail-là, aurait signifié ouvrir la voie à tous les crimes internes pendant la guerre qui se sont passés. Or, les crimes ont continué, des crimes politiques, et ceux qui étaient présents dans les mouvements nationalistes ont toujours été, en tout cas on s'est arrangé pour les effacer. Alors c'est un peu moins le cas maintenant, parce qu'on se rend compte qu'en Algérie il y a de plus en plus de livres qui traitent de cette question, que la population ne se contente pas d'une histoire officielle, univoque, de glorification des martyrs, et que ce que la population cherche, c'est de retrouver la diversité et de retrouver la manière dont le politique algérien a lui-même été dans des exactions, un système de torture, etc. Donc ce travail est en cours en quelque sorte. Mais oui, il y a eu une reconduction à défaut d'un travail de mémoire. Et on le retrouve bien, les islamistes se faisant passer pour des moudjahidines. Il y a eu les milices, eux aussi se faisant passer pour des moudjahidines. Il faut avoir à l'esprit que l'islamisme en Algérie est né, et ça a été son grand succès, comme étant la solution la plus adéquate pour nettoyer le colonial en Algérie. Disant que cette bourgeoisie algérienne qui était au pouvoir, ou que la bourgeoisie algérienne francophone était une façon de... Enfin, c'était des colons. Et donc, les termes, on retrouve les mêmes termes. Il fallait donc évacuer le colon, c'est-à-dire celui qui était algérien. Voilà. Alors, tout le rapport aux langues en Algérie est pris dans cette histoire coloniale. Le passage du français à l'arabe, la manière dont l'arabe littéral a été imposé pour effacer la place du français, comment on ne cesse de se débattre dans des guerres de langues, la position de la langue kabyle, en permanence évacuée, dévaluée, la manière dont on évacue la masérité de ce territoire, c'est-à-dire qu'on évacue l'histoire matrice de ce territoire. Voilà, par un retour à la colonisation arabe, à la conquête arabe. C'est quand même bizarre que dans un pays qui cherche à sortir de la conquête française, on ne trouve rien de mieux que de retourner vers la conquête arabe.
Alors aujourd'hui, l'Algérie a un président qui se revendique encore de cette histoire de la guerre de libération algérienne. Comment feront les autres pour asseoir leur légitimité, finalement, ceux qui seront après cette histoire?
Alors, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est jusqu'à quel point il y a un profond sentiment d'illégitimité et de hogara. Hogara, c'est-à-dire d'offense.
Hogara,
c'est ce qu'on peut traduire. C'est un mot de la langue algérienne dialectale qui peut se traduire par trois mots. En tout cas, il porte trois mots en français. L'offense, l'humiliation et le mépris. Et c'est un mot archive de cette histoire coloniale. Jusqu'à maintenant, en Algérie, dès qu'il y a le moindre sentiment d'injustice, très très vite, c'est le Hogara. Hein. Alors, on voit bien que c'est une histoire qui est très ancienne, qui se transporte avec le Hogara. On passe notre temps, l'un offense l'autre en permanence. C'est une histoire d'offense qui est au cœur des relations sociales. Il y a une offense qui est très très forte. Alors, il se trouve que les générations passent et pourtant rien ne change de la structure de cette affaire. Et c'est en cela qu'il faut retrouver...
Là, on arrive peut-être à la fin d'une... Voilà, la génération de la guerre d'Algérie s'en va.
Oui, mais vous savez, les générations peuvent changer et rien ne change de l'esprit, de ce que j'ai appelé l'esprit colonial. C'est-à-dire qu'après, ça ne suffit pas d'être dans des nouvelles générations. Il faut aussi que ces nouvelles générations, en Algérie et en France, se mettent au travail et s'imposent dans une mise au travail.
Bon, c'est passionnant, le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes intéressé à cette donc décennie. Alors vous dites que décennie noire, c'est pas le terme, mais qu'effectivement à cette guerre intérieure, guerre qui ne dit pas son nom et sur laquelle il y a quand même peu d'écrits. Et il y a quand même une loi d'omerta qui pèse hein, sur cette période-là. Il y a peu de choses qui sortent quand même.
D'effacement. On retrouve là l'effacement qui était présent durant l'histoire coloniale, c'est-à-dire qu'il y a une politique d'effacement.
Karima Lazali sur Beurre FM, merci d'être venue un dimanche en direct, alors qu'il fait si beau, vous avez contribué à encore ensoleiller encore plus notre dimanche. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à un dimanche prochain pour un nouveau Book Club.
Merci.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.